Puis sans fond à Boulevard 102-1, on a de la grande visite, de la visite de l'international. C'est Jacinthe qui nous a proposé cet invité un petit peu plus tôt ce matin, puis j'ai automatiquement dit un gros oui parce que le sujet est intéressant, peut générer de la belle discussion. C'est l'auteur Samuel Fitoussi, qui est essayiste, chroniqueur au Figaro, qui signe « Pourquoi les intellectuels se trompent ». Monsieur Fitoussi, bonjour.
Bonjour, merci de recevoir.
D'abord, quand vous parlez des intellectuels, je pense que la première grande question serait de définir qu'est-ce qu'un intellectuel, de qui on parle. Est-ce que ce sont les universitaires, est-ce que ce sont les journalistes? Qui sont les intellectuels?
Oui, moi je définis les intellectuels au sens assez large, comme toutes les personnes qui... joue avec des idées. Ça peut être des commentateurs, ça peut être... C'est l'intelligence au sens large. Ça peut être des universitaires, ça peut être des écrivains. Il y a une définition de Thomas Sowell que j'aime bien, c'est l'intellectuel est un individu dont le travail commence et finit dans la sphère des idées, c'est-à-dire dans la sphère abstraite. Et en raison de cela, l'intellectuel, souvent, ne peut pas confronter ses idées à la réalité empirique. C'est pas le boulanger, s'il commet des erreurs, son pain aura mauvais goût, les clients s'en détourneront et il pourra corriger, affiner sa recette de pain, ou alors si plutôt il voit que son pain ne lève pas au four, il y a un critère de confrontation avec le monde réel, il y a un produit réel, c'est le pain. Il pourra ajouter de la levure dans son pain, par exemple. Le pilote d'avion, s'il commet des erreurs, il y a une confrontation avec le monde réel, c'est est-ce que l'avion atterrit ou est-ce que l'avion s'écrase. Et s'il commet des erreurs, l'avion s'écrase, et le pilote d'avion sera puni pour ses erreurs et incité à penser juste. Mais l'intellectuel, en revanche, étant donné que son travail commence et finit dans la sphère abstraite, il ne subit pas lui-même les conséquences de ses erreurs, et en raison de cela, il a le luxe de pouvoir choisir ses erreurs, ses croyances, pour leur valeur sociale plutôt que pour leur valeur de vérité. Et c'est pour ça, à mon sens, c'est une des raisons pour lesquelles il se trompe souvent.
Vous expliquez là, que les intellectuels ont tendance à se placer au-dessus du sens commun. Pourquoi cette posture, selon vous, est un terrain fertile pour l'erreur?
Oui, je pense qu'il y a depuis toujours une fascination des intellectuels pour l'idée selon laquelle le peuple est endormi, le peuple est encore dans la caverne, et l'intellectuel, lui, a accès, voit la vérité, voit les structures de domination qui régissent nos sociétés, mm-hmm. et peut ainsi éveiller le peuple et expliquer à l'homme ordinaire ce que l'homme ordinaire devrait vouloir s'il n'avait pas, par exemple, le cerveau lavé par les chaînes d'information en continu, par des stations de radio. Donc je pense que cette posture est assez attirante chez les intellectuels. Simone de Beauvoir, déjà il y a quelques décennies, se réjouissait de l'interdiction de la presse d'opposition en Chine maoïste, oui. parce qu'elle disait que le petit peuple n'était pas assez mûr pour choisir entre des opinions divergentes et qu'il fallait l'orienter vers, il fallait que des experts comme elle orientent le peuple vers la bonne opinion. Il y a évidemment les idées marxistes selon lesquelles le prolétariat a le cerveau lavé par la bourgeoisie et a donc besoin de l'intellectuel pour l'éveiller. Il y a les idées woke, évidemment, selon lequel le terme woke qui veut littéralement dire éveillé, donc éveillé aux structures de domination qui régissent nos sociétés et auxquelles la plupart des individus seraient aveugles. Il y a aujourd'hui le néo-féminisme qui explique que si les femmes s'orientent vers certains métiers, c'est parce qu'elles ont le cerveau lavé, parce qu'elles savent mal ce qui est bon pour elles et qu'elles ont donc besoin des intellectuels néo-féministes, par exemple, pour les éveiller, les éduquer, leur expliquer ce qu'elles devraient vouloir si elle n'avait pas le cerveau lavé par le patriarcat. Il y a évidemment toute la pensée autour de le nietzschéisme, selon laquelle l'homme est animé par le ressentiment sans le savoir et, encore une fois, ne sait pas réellement ce qu'il veut, et seuls certains intellectuels sortis de la caverne savent ce qui motive l'homme ordinaire. Idem pour les pensées proches de celles de Freud. Donc voilà, je pense que cette idée selon laquelle l'homme ordinaire ne sait pas ce qui est bon pour lui, a toujours attiré les intellectuels parce qu'il leur donne un rôle, il leur donne le rôle de libérateur chargé de guider le petit peuple dans le droit chemin et de lui expliquer ce qui est bon pour lui.
Est-ce que les intellectuels se trompent autant à gauche qu'à droite?
Je, pense que sur la période que je couvre dans mon livre, qui va grossièrement de la fin de la Seconde Guerre mondiale à la période contemporaine, indéniablement, les intellectuels de gauche se sont largement plus trompés. Il y a eu l'aveuglement sur le communisme, qui a duré des décennies entières. Sartre se rend en URSS dans les années 50. Il en revient et il explique que l'expérience communiste est un grand succès, que l'URSS dépassera le niveau de vie français à horizon 10 ans. Quand un journaliste lui demande pourquoi on ne voit pas des touristes faire du tourisme en France, des touristes soviétiques quitter leur pays plus souvent et faire du tourisme en France, il répond: oh, vous savez, ils sont tellement bien chez eux qu'ils n'ont pas très envie de partir. Donc il a utilisé toute son intelligence dans la rationalisation d'absurdité. C'est d'ailleurs ce que lui reprochait Raymond Aron dans ses mémoires. Mais il n'y a pas que Sartre, il y a aussi Simone de Beauvoir qui se rend en Chine maoïste à peu près à la même époque et qui publie un livre de 450 pages à la gloire de Mao pour expliquer que le Mao n'est en réalité pas un dictateur, qu'il met en place les politiques que devrait mettre en place tout régime soucieux du bien-être de son peuple. Elle écrit que le maoïsme est un humanisme, que Mao inspire le respect. Donc 450 pages lyriques à la gloire de Mao qui sont et l'aveuglement a duré très longtemps, alors que Mao, on le sait, a tué en réalité des dizaines de millions de personnes, pas justement en raison des politiques collectivistes qu'il mettait en place et que Sartre et Beauvoir et d'autres d'ailleurs soutenaient. Il y a eu aussi l'aveuglement pour la révolution iranienne. Foucault et Sartre ont défendu la révolution islamique en Iran en 1979. Il y a eu l'aveuglement pour la situation, l'amour pour Fidel Castro à Cuba, qui mettait en place une dictature sanglante. Donc voilà, pendant plusieurs décennies, il y a eu, je pense, un aveuglement de la gauche sur des sujets extrêmement importants. Je pense que le bilan moral des intellectuels de gauche pendant cette période est assez peu glorieux. On sait que les régimes qu'ils ont applaudis ont tué des dizaines de millions de personnes. Voilà. Et puis après, pourquoi est-ce que ce sont des intellectuels de gauche qui se sont davantage trompés que des intellectuels de droite? Je pense que une des pistes permettant de l'expliquer, c'est que pour eux, le coût de l'erreur était plus faible. Il y avait une certaine complaisance pour les erreurs de gauche parce qu'on ne remettait jamais en cause la bonté morale de la gauche. Quand quelqu'un de gauche se trompait, on considérait que c'était un égarement, une dérive qui ne remettait pas en cause la pureté des intentions. Alors que quand un intellectuel de droite se trompe, on considère qu'il a enfin laissé tomber le masque et qu'il révèle sa vraie nature forcément viciée. Donc je pense que le coût de l'erreur était plus faible pour la gauche. Or, c'est lorsque le coût de l'erreur est faible que, et les sciences cognitives le montrent, je le démontre dans mon livre, qu'on est prédisposé à l'erreur. Et par ailleurs, je pense que dans les institutions culturelles et intellectuelles en Occident pendant cette période, la gauche dominait très largement et donc la gauche était assez protégée de la contradiction. Or, seul le pluralisme permet la rationalité. Donc les intellectuels de gauche n'évoluaient pas dans des environnements sociaux permettant la rationalité, je pense.
Vous abordez dans votre livre le rôle des idéologies séduisantes mais fausses. Comment vous expliquez que des idées séduisent autant, même chez les esprits brillants? C'est parce qu'on se sent investi d'une supériorité morale ou justement parce qu'on se sent investi de tellement bonnes et pures intentions qu'on oublie même d'analyser ou de regarder les impacts de nos idéologies séduisantes?
Oui, je pense qu'il y a plusieurs façons d'expliquer ça. Une des façons, c'est par la science politique, c'est que les régimes totalitaires souvent confèrent une importance à l'intellectuel que ne confèrent pas les démocraties libérales, parce que dans les sociétés autoritaires, souvent c'est l'intellectuel qui théorise sur sa feuille de papier la société idéale, et ensuite le politicien, par l'autoritarisme, applique les méthodes de l'intellectuel. Et Raymond Aron, on lui demandait pourquoi, dans ses mémoires, il pose la question pourquoi l'intelligentsia préférait-elle avoir tort avec Sartre que raison avec lui? Et sa réponse, c'est l'intelligentsia ne me pardonnera jamais de ne pas avoir donné la recette de la bonne société et de ne pas avoir donné le plan pour y accéder. Donc je pense que ça peut exister aussi, le désamour de certains intellectuels pour les démocraties libérales et leur fascination malsaine pour l'autoritarisme qui leur donne un rôle de garant du bonheur de leurs concitoyens. Je pense aussi que pour expliquer pourquoi même des esprits brillants peuvent adhérer à ces idées folles, il faut garder en tête, c'est un des grands thèmes de mon livre, que le raisonnement est souvent postérieur à l'adoption d'une croyance. On ne raisonne pas, souvent, on choisit nos opinions pour des facteurs sociaux et largement inconscients. On choisit nos croyances par conformisme avec nos pères, par tribalisme, par conditionnement social. Et ensuite, on raisonne dans un deuxième temps seulement, de façon complètement partiale, pour rationaliser les croyances qu'on a adoptées irrationnellement. Et on se persuade soi-même et on persuade les autres qu'on a atteint nos croyances par le raisonnement, mais en fait, on a raisonné seulement dans un second temps. Or, si on raisonne seulement dans un second temps, après avoir choisi les croyances qu'on allait choisir rationnellement les croyances, il n'y a pas de raison de croire que l'intelligence prédispose à choisir les bonnes croyances. Il y a une phrase du philosophe Michael Shermer que je cite dans mon livre où il dit: Malheureusement, les gens intelligents ne sont pas ceux qui choisissent le mieux leurs croyances, mais ceux qui défendent le mieux leurs croyances. Et la conséquence tragique de ça, c'est aussi que les gens intelligents ont encore plus de mal à changer d'avis que les gens moins intelligents, parce que les gens les plus intelligents parviennent à se construire des justifications sophistiquées permettant de rationaliser et de défendre n'importe quelle absurdité. Il y a une phrase de Simon Leys qui dit il faut vraiment être un intellectuel supérieur pour refuser que l'eau mouille et pour penser que 2 plus 2 égale 5. Et il y a aussi la phrase évidemment très célèbre d'Orwell, certaines idées sont tellement absurdes que seuls des intellectuels pourraient y adhérer.
Vous me semblez être un très brillant intellectuel. Est-ce que vous vous trompez?
Je pense qu'évidemment, je me trompe très, très souvent. Le pari que je fais dans mon livre, c'est de ne pas me prononcer sur des débats contemporains, d'expliquer plutôt les schémas de pensée qui prédisposent à l'erreur. Je parle de sociologie, de sciences politiques, de sciences cognitives. Et ensuite, chacun peut les appliquer à ce qu'il veut. Je parle surtout des égarements du passé, parce qu'évidemment, avec le recul du temps, on voit bien que la gauche s'est largement trompée sur le communisme, sur le maoïsme, sur Fidel Castro, sur la révolution iranienne, etc. Mais évidemment, je pense que dans le présent, c'est beaucoup de gens, et moi aussi peut-être, se trompent. Simplement, on n'a pas encore le recul de l'expérience et du temps pour juger ça. Mais cela dit, je pense qu'il faut garder en tête que l'irrationalité, ce n'est pas toujours les autres. Certains aiment imaginer que certaines personnes ou certains bords politiques sont par essence irrationnels et qu'eux seraient magiquement protégés de cette irrationalité. Mais je pense pas. Je pense que tout le monde, les cerveaux humains sont tous globalement identiques, ont tous été façonnés par les mêmes forces évolutives qui nous prédisposent à la rationalité sociale dans certains contextes plutôt qu'à la rationalité épistémique. Et donc, on peut tous, quel que soit notre bord politique, être sujet sans s'en rendre compte. C'est ça la tragédie, en étant persuadé d'être rationnel, être sujet à l'irrationalité et applaudir avec enthousiasme des croyances absolument désastreuses. Et ça concerne aussi bien la droite que la gauche. Que le centre, d'ailleurs, parce que certains au centre aiment bien s'imaginer que le centre, lui, est rationnel et combat des extrêmes irrationnels,
Oui.
mais en réalité, il n'y a pas des gens qui sont par essence plus rationnels que d'autres. Le centrisme peut être lui aussi considéré comme une idéologie avec une vision, avec des raisonnements qui découlent de la croyance étant qu'il faut être géographiquement au centre et choisir ses croyances en fonction de la géographie politique et non pas de la recherche de vérité. Donc je pense, voilà, que tous les bords politiques, droite, gauche et centre, peuvent être sujets à des dynamiques d'irrationalité et de conformisme social assez délétères.
Je trouve ça vraiment intéressant. Si on veut développer notre esprit critique pour justement pas se laisser séduire par des belles idées fausses, quels conseils pratiques vous pouvez nous donner?
Pense que le plus important, c'est le pluralisme, toujours se confronter à des opinions avec lesquelles on n'est pas d'accord et surtout toujours fréquenter des gens avec lesquels on n'est pas d'accord. Parce qu'en fait, donc j'ai dit que on se trompait plus souvent lorsque le coût social de l'erreur est faible. Et ce qui est aussi vrai, c'est qu'on se trompe plus souvent lorsque le coût social de la vérité est élevé. Et
Oui.
or, lorsqu'on évolue dans un environnement où, par exemple, mettons l'université aujourd'hui, si vous arrivez en sciences sociales à l'université, 95% des étudiants sont de gauche. Et donc, le coût social lié au fait d'adhérer à des idées de droite est très élevé.
Oui.
Et donc, inconsciemment, nos cerveaux vont nous interdire, parce que nos cerveaux sont façonnés par l'évolution et nous prédisposent à ne pas nous à ne à gagner des points sociaux plus qu'à chercher la vérité. Donc, dans un environnement où tout le monde sera à gauche, nos cerveaux vont nous empêcher d'examiner avec rigueur les croyances du groupe, d'examiner d'examiner avec justesse les croyances de la droite, et donc nos cerveaux vont nous empêcher de penser rationnellement. Alors que si on arrive dans un environnement où 50% des gens sont de droite, 50% des gens sont de gauche, aucune croyance n'est socialement disqualifiable et nos cerveaux peuvent se permettre d'examiner tous les points de vue avec rigueur et impartialité et nous permettre de choisir nos croyances pour leur valeur épistémique, c'est-à-dire leur valeur de vérité, plutôt que pour leur valeur sociale.
Voyez-vous un monde dans lequel les intellectuels appliquent en majorité ces trucs-là, ces astuces-là, pour moins se tromper, ou vous croyez qu'on est condamné à ce que les intellectuels restent de leur côté et restent campés dans leur position?
Non, je pense qu'on malheureusement on est condamné à la deuxième option. Le cerveau humain est façonné par des forces évolutives qui nous poussent à avoir envie d'appartenir à un groupe, qui nous poussent à avoir envie de fréquenter des gens qui pensent comme nous, qui nous poussent à avoir de l'affection pour l'endogroupe et de la haine pour l'exogroupe, qui nous poussent à raisonner pour rationaliser nos croyances, etc. Et comme je le montre dans mon livre, tout ça affecte plus les intellectuels que les autres, parce que les intellectuels, plus que les autres, sont protégés des conséquences de leurs erreurs. Mais ce qu'on peut faire, en revanche, c'est d'essayer de limiter la gravité des erreurs des intellectuels quand ils se trompent, parce qu'il et ça continuera à arriver. Et une de ces choses, et ça, je m'appuie beaucoup sur Thomas Sowell, l'économiste et philosophe américain, c'est de ne pas laisser, de laisser le pouvoir de décision entre les mains des citoyens de façon décentralisée, et de ne pas laisser des tiers, c'est-à-dire des intellectuels, des bureaucrates, des politiciens, des régulateurs, imposer à tous les arbitrages que eux jugent souhaitables. Parce que si on fait ça, l'erreur se répand rapidement dans le système. Quand des choix sont pris par le haut, si erreur il y a, elle se répand rapidement dans le système et a des conséquences catastrophiques. Typiquement, le lysenkisme en URSS, et des idées farfelues sur l'agriculture, parce qu'il était appliqué par le haut, il a tué des dizaines de millions de personnes suite aux famines qu'il a causées. Alors que si simplement l'URSS avait laissé les agriculteurs lysenkistes faire de leur côté leur propre expérience, seuls les agriculteurs lysenkistes seraient morts et pas l'ensemble de la société. Et d'ailleurs, on peut imaginer que, sujet personnellement aux conséquences de leur décision, les agriculteurs lysenkistes auraient rapidement cessé de l'être. Donc, ce que dit Thomas Sowell, c'est qu'il n'y a pas de pire façon de prendre des décisions que de laisser décider ceux qui ne subissent pas les conséquences de leurs erreurs. Donc, moi, je pense que c'est très juste, il faut laisser décider ceux qui subissent les conséquences de leurs erreurs, c'est-à-dire les individus qui vivent leur vie et les laisser faire les choix de vie. Et par ailleurs, il faut décider de la façon la plus décentralisée possible pour construire des systèmes robustes à l'erreur et presque antifragiles, pourrait dire Nassim Nicolas Taleb.
Je sais que vous préférez regarder vers l'histoire plutôt que l'actualité contemporaine, mais est-ce qu'on pourrait dire que c'est un peu ce qui a été observé en France dans le mouvement Les Gueux par rapport aux ZFE? Et pour le bénéfice de nos auditeurs ici au Québec qui n'ont pas suivi l'actualité française, les ZFE, ce sont les zones à faible émission qui ont été introduites dans plusieurs villes en France pour catégoriser les voitures en fonction de leur année de construction, de leur niveau d'émission. Il y avait 6 catégories et certaines zones de certaines villes étaient interdite à certains types de véhicules en fonction des critères de chacun son véhicule, ce qui faisait en sorte que, bref, vous pouviez vous retrouver avec une voiture qui était catégorisée comme étant interdite dans certaines zones, dans certaines villes. Et Alexandre Jardin, notamment l'auteur français, avec des collègues, avec des collaborateurs politiques municipaux, ont vraiment levé un mouvement qui s'appelle les Gueux, en référence au peuple, finalement, qui disait, le peuple disait, ça n'a pas de bon sens, c'est complètement trop théorique, vos trucs, vos idées, vos lois, vos règlements, et elles nous empêchent de vivre correctement. Est-ce que ça n'est pas là un exemple, justement, de ces mouvements populaires qui permettent au peuple de se faire entendre? Je sais que le 10 septembre prochain aussi se dessine un gros mouvement de contestation populaire similaire peut-être aux Gilets jaunes en France. Est-ce que c'est ce genre de mécanisme que vous voyez comme contre-pouvoir à ces grands courants qui sont parfois portés par des idéologies séduisantes?
Oui, sans doute. Je pense que c'est vrai que le mouvement des ZFE, c'est un bel exemple d'irrationalité de l'intelligentsia qui s'est enthousiasmée pour cette politique complètement folle qui allait interdire aux citoyens français de prendre leur voiture et d'entrer dans les centres-villes, politique de ségrégation sociale. Moi, j'aime beaucoup la grille d'analyse d'un psychologue qui s'appelle Rob Anderson, qui parle de croyances de luxe. Il dit que dans le passé, les riches se distinguaient en achetant des biens de luxe, des montres de luxe, des vêtements très chers, etc. Mais à mesure que les biens de luxe se sont, que le pouvoir d'achat a augmenté et que les biens de luxe, les bijoux, les montres se sont un peu démocratisés, l'élite a dû chercher un autre moyen de se distinguer. Et comment l'élite aujourd'hui réussit-elle à se distinguer? C'est par les croyances. Et certaines croyances sont des marqueurs d'appartenance à l'élite lorsque seule l'élite peut se permettre de les adopter. Donc, si vous voulez, vous avez certaines croyances qui sont beaucoup plus coûteuses pour les classes populaires que pour l'élite. Et par conséquent, quelqu'un issu des classes populaires ne pourra pas l'adopter. Et donc, quand quelqu'un de l'élite adopte cette croyance, en réalité, il envoie un signal. Le signal, c'est je suis suffisamment aisé, j'appartiens à une sociologie protégée des conséquences de cette croyance, et donc je peux me permettre d'adopter cette croyance. Donc, en proférant certaines croyances, certaines idées, on signale son appartenance sociologique au groupe, à l'élite, au groupe des gens aisés. Et je pense que cette grille de lecture est assez pertinente et s'applique bien aux LFE. Évidemment, pour s'enthousiasmer pour une politique qui interdit aux classes populaires d'entrer dans les centres-villes en voiture, il faut en général ne pas appartenir aux classes populaires. Et donc, en réalité, les écologistes qui s'enthousiasmaient pour cette croyance envoyaient un signal: j'appartiens à la classe moyenne, urbaine, diplômée, protégée des conséquences de cette croyance. Donc, je pense que cette grille d'analyse est assez pertinente. Rob Anderson la décline sur d'autres sujets, par exemple le mouvement Defund the Police aux États-Unis après Black Lives Matter. Rob Anderson montre que ceux qui ont le plus besoin de la police, parce que c'est ceux qui subissent le plus de robberies, de cambriolages, de vols, d'agressions, etc., ce sont aux États-Unis les citoyens les plus pauvres. Or, ceux qui soutenaient avec le plus de ferveur le mouvement Définancer la police étaient les citoyens les plus aisés, c'est-à-dire ceux qui ont le moins besoin de la police. Et donc, en écrivant sur Instagram Defund the Police, en réalité, ce que ces gens envoyaient comme signal, c'était: moi, j'appartiens à une sociologie qui n'a pas vraiment besoin de la police, qui n'est pas confrontée à la criminalité, je peux me permettre d'adopter cette croyance. Et c'était une croyance de luxe, un signal d'appartenance à l'élite. Je trouve cette grille de lecture assez pertinente.
Samuel Fitoussi, merci beaucoup, très intéressant. Comment on peut vous suivre d'ici au Québec?
Je suis sur Twitter, si vous voulez, vous pouvez me suivre sur Twitter. Aussi, je pense que mon livre est disponible sur Amazon. Je ne sais pas quels sont les délais de livraison, mais il doit être disponible. Et voilà. Et je viendrai un jour au Québec avec grand plaisir.
Pourquoi les intellectuels se trompent de l'auteur Samuel Fitoussi, essayiste et chroniqueur au Figaro. Merci beaucoup.
Merci.
Merci à vous. Au revoir.
Au revoir.
Jusqu'à 10 h, Boulevard Against le matin. 102.1. Boulevard 102.1. T'aimes l'actualité, t'aimes le rock. T'as jamais téléchargé l'application Boulevard sur ton téléphone? T'es qui, toi?